30 ans en direct.
Et bienvenue tout le monde, bienvenue sur Paris Central. Il y a le match contre Clermont qui vient de se terminer. J'ai envie de dire que c'était une cacophonie de foot, tellement c'était un peu le dawa. Enfin, c'est un match assez incompréhensible. J'ai pour moi, pour en parler, Tonton, de Tonton Ballard. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et Kevzor, messieurs, comment allez-vous?
Au top, mais bon, on va juste débriefer le match. On va éviter de parler du reste.
Ok. Ok, mais non, mais effectivement, le reste, on n'en parlera pas. J'ai envie de commencer par une question qui est simple. Est-ce que pour vous, c'est un bon ou c'est un mauvais nul? Tonton commence.
Bon, mauvais. Moi, je dirais mauvais dans le sens où tu t'es procuré beaucoup d'occasions. Enfin, tu t'es procuré beaucoup d'occasions. On s'est compris. Tu t'es procuré en tout cas des occasions qui auraient dû finir au fond. Je ne vais pas revenir sur les pénaltys ou non qui auraient dû être sifflés parce que ça, c'est l'interprétation de chacun et je ne suis pas là-dedans. Mais en revanche, frustré dans le sens où tu as des occasions que tu dois mettre au fond, tu as un manque de finition évident de cette équipe. Et dans un contexte normal, je ne sais pas si c'est lié à un match de pré-Ligue des Champions, parce qu'on a eu le même problème contre Nice avant de jouer la Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des grosses carences, notamment au niveau offensif de cette équipe, et tu dois jamais terminer ce match à 0-0 en ce qui me concerne.
Kev, je vais te rebondir, est-ce que pour toi c'est un bon ou c'est un mauvais nul ?
C'est un mauvais nul. Tu pouvais prendre pour la quasi première fois de la saison la tête du championnat. Tu fais pas un bon match. Je trouve que les attitudes n'étaient pas forcément très bonnes. Les joueurs qui ont remplacé les titulaires n'ont pas été bons du tout. Donc non, c'est un mauvais nul. Même si les deux gardiens ont brillé, c'est un mauvais nul. Moi, je suis pas content non plus.
Ok, et du coup, comment est-ce que vous rationalisez ce match? Parce que à titre perso, je ne sais même pas si j'ai compris ce qui se passait. Tu as eu des moments où tout à coup c'était enthousiasmant, mais c'était un dawa pas possible avec les défenseurs aux 60 mètres. Tu as des moments où ça frisait l'ennui avec une passivité. Comment est-ce que vous rationalisez ce match? Tonton, qu'est-ce que tu peux me dire sur le match du coup?
Je pense que, encore une fois, comme contre Nice, tu as un espèce de, je sais pas, un espèce de petit tas. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme tu vas jouer la Ligue des Champions, je sais pas si t'es focus réellement sur le championnat et c'est une erreur qu'il va falloir vite éviter de refaire. Enfin, moi j'ai cette impression là en tout cas, tu vois. Mais je me dis que, en tout cas, dans le match, c'était compliqué. Les mecs qui étaient censés être les deux neufs de cette équipe, comme Mbappé et Randal Kolo Muani, bah ils sont pas procurés tant de tirs que ça, tant d'occasions que ça. Pour le peu qu'ils ont eu, ils ont pas été si cliniques que ça. Et je me dis qu'il y a eu aussi des joueurs dont on a des doutes, notamment Ugarte, comment faire pour le remplacer. Et ça, c'est notamment un doute auquel on n'a toujours pas répondu. Là, tu n'avais pas d'Ugarte, tu n'avais pas d'Warren Zaïre-Emery. J'ai eu l'impression que le milieu était facilement passable. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on a retrouvé les problèmes de l'an dernier au milieu où notre milieu se faisait transpercer par n'importe qui. Mais je vais laisser Kevzor continuer s'il se sent de le faire.
Bah ouais, Kevzor n'hésite pas, notamment sur Ugarte, est-ce qu'on peut s'en passer?
Non, mais en fait, malheureusement, de toute façon, on l'a dit. Tout à l'heure, je suis tombé sur un tweet de quelqu'un qui disait, je crois que c'était La Source Parisienne ou quelqu'un comme ça, qui disait, ouais, Riolo, t'es contradictoire, parce qu'il avait dit, il y a quelques semaines, on ne pourra pas faire une saison avec Warren, Vitinha et Ugarte, mais que derrière, Ugarte s'était imposé et était irremplaçable dans ce PSG-là. Mais en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as des joueurs qui malheureusement n'ont pas de remplaçant de calibre, entre guillemets, ou même en dehors du calibre, qui ont au minimum le niveau pour compenser leur absence. Donc aujourd'hui, voilà, tu es en difficulté. Trouver les solutions, après déjà, à partir du moment où je pense que tu prends l'adversaire de haut, tu ne fais pas une bonne entame, tu ne mets pas les attitudes que le football demande pour respecter le football et respecter ton adversaire. Et bien forcément, dans ce genre de match, plus tu tardes à marquer, plus tu es en difficulté en fait, et tu donnes beaucoup de confiance en ton adversaire. Donc moi, je trouve que voilà, les remplaçants, que ce soit Fabian Ruiz ou Danilo, qui depuis le début de la saison n'est pas bon du tout, hein, concrètement, malheureusement, il faut aussi le dire, hein, ça a été un joueur que beaucoup de gens ont défendu sur Twitter, moi y compris. Mais aujourd'hui, voilà, il a joué en Timberland, quoi, clairement. Il n'a pas réussi un contrôle, il n'a pas réussi une passe. Fabian Ruiz, c'est trop lent en fait. Danilo, Fabian Ruiz alignés côte à côte, sachant que Fabian Ruiz jouait du côté à Danilo, et ben en fait, pour mettre en difficulté un bloc comme celui-ci qui est quand même qui nous a bien pris, qui était proche de nos joueurs, ben il faut jouer beaucoup plus vite. Ça joue trop lentement, c'est très très lent. Pour mettre un peu de verticalité, c'est trop long. Pour faire travailler la défense adverse sur la largeur, ben on touche 3-4 fois le ballon, on attend, c'est long, c'est trop long. Donc malheureusement, et en dehors de ces deux joueurs, hein, des mecs comme Mbappé, comme tu l'as dit. Pour moi, sont pas en forme physiquement, donc ne sont pas bons. Randal Kolo Muani n'a pas fait un bon match du tout. Je trouve que Hakimi, En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que Hakimi avait été replacé beaucoup plus à l'intérieur du jeu. Et je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution aujourd'hui. Parce que Hakimi, ses très bons matchs ont été faits, surtout quand il dédoublait et pas qu'il venait prendre la profondeur côté gauche à Dembélé. Donc voilà, sachant que Dembélé rentre beaucoup à l'intérieur. Du coup, en fait, pour étirer et mettre plus de largeur dans ce bloc, c'était plus compliqué. Voilà, honnêtement, globalement, très très peu de joueurs ont porté satisfaction aujourd'hui. Et on en reviendra après sur top et flop, mais moi, je ne suis pas satisfait.
Bah, sur Ugarte, il y a un truc qui est clair, c'est qu'avec Ugarte, tu as beaucoup plus de récupérations hautes et des récupérations qui sont propres, qui te permettent de te relancer. Et celles-là, tu ne les avais pas. En fait, tu étais constamment obligé de partir d'assez bas. Il y a quelqu'un qui nous dit Ugarte a pas manqué aujourd'hui. Franchement, on voit pas la même chose. C'est le nombre de récupérations Ugarte par match. Il est en moyenne à 10 récupérations, pas loin en tout cas des 10 par match. Aujourd'hui, on a des récupérations et notamment des récupérations autres, on n'en a aucune. Alors, je dis juste rapidement à Eve. Non, l'arbitre, je suis désolé, on n'en parle pas, c'est pas intéressant. De toute façon, en plus, en tant que PSG, tu n'as pas forcément besoin de te réfugier derrière. Tu es obligé de trouver des meilleures solutions. Vas-y.
Je peux me permettre, il y a deux pénaltys non sifflés pour le PSG, mais il y en a deux aussi non sifflés pour Clermont.
Oui, on va tout simplement pas en parler, en fait. On va tout simplement pas en parler.
Et je voulais juste faire une parenthèse, Dias. En fait, concernant Ugarte, il faut savoir que même quand tu récupères un ballon haut, si tu le récupères haut, ça veut dire que le bloc adverse est en train d'avancer vers ton but. Donc, qui dit récupération haute, dit forcément au minimum situation offensive. Et en fait, aujourd'hui, on était le PSG, je ne sais pas, on avait eu une stat là qui était tombée, 4 stats, tu vois, le nombre de récupérations hautes, le nombre de contre-pressing, etc., où le PSG était la seule équipe d'Europe qui était dans le top 5 de ces 4 classements. D'accord ? Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on soit dans un seul de ces classements, sur le match uniquement.
Ouais.
Je ne sais pas si tu vois ce que tu m'as suivi ou pas.
Ouais. Et justement, je voulais rebondir après sur Hakimi. Effectivement, c'est peut-être la première fois en fait, qu'on commence clairement dans une défense à 3. Avant, on était dans cette espèce d'hybride entre les deux. Et c'est la première fois qu'on commence en défense à 3, où, comme tu l'as rappelé, Hakimi était aligné dès le début du jeu. Il est à l'intérieur. L'entente avec Ousmane Dembélé, on l'a vu qu'une seule fois dans le match où il y a ce dédoublement. Est-ce que pour vous, cette défense à 3 plutôt que le mécanisme hybride, c'est quelque chose à revoir ou c'est quelque chose à définitivement oublier ?
Alors, je pense que c'est à revoir, mais c'est le choix des joueurs qui n'est pas bon. On avait évoqué déjà contre Nice le fait que Danilo et Skriniar ne devaient plus être alignés ensemble dans une même défense centrale. Et en même temps, là, quand tu vois ce soir, je suis désolé, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que d'habitude, à la place de Danilo, tu as Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez, tu peux le mettre dans un rôle hybride de défenseur gauche, défenseur central, parce qu'il sait le faire. Il a été formé aux deux postes à l'Atlético Madrid, il a joué aux deux postes tout au long de sa carrière. Danilo, tu ne pourras jamais lui demander d'être techniquement ce qu'est Lucas Hernandez. C'est une réalité. Et à partir de là, Marquinhos ne l'étant pas non plus, et Skriniar ne l'étant pas non plus, tu n'as pas ce défenseur central avec un rôle hybride qui peut et à la fois tenir son couloir et défendre, et à la fois se projeter et amener du surnombre offensivement pour participer au jeu offensif, ce que fait Hakimi en tant que latéral droit. Et là, quand tu avais cette défense 3, c'est ça, Danilo, Skriniar, Ruiz, c'est trop lent. Oui, c'est ça, et même Ruiz, pour revenir à lui, tu vois, la différence, pourquoi je trouve que Ugarte a manqué, contrairement à ce qui avait été dit dans le chat, parce que peut-être que Fabian Ruiz, techniquement, il peut être ce qui se rapproche le plus du remplaçant de Ugarte avec le ballon, ok, mais sans le ballon, Fabian Ruiz il gagne pas de duel, Fabian Ruiz c'est pas un mec qui va presser, c'est pas un mec qui défensivement il est sûr, parce que Fabian Ruiz au fond c'est un 8 un peu plus offensif.
La target habituelle. Alors je me permets de t'interrompre. Merci beaucoup Eve pour les 5 euros. Colo, oui, on va en reparler, je pense que c'est,
pas en tant le que
focus sur Colo va revenir, hein. Je vais mettre un petit accent dessus, mais clairement on en reparlera. Et encore merci beaucoup à toi. Et du coup Kev il nous fait visiter tout Paname là, et du coup est-ce que la défense à 3 pour toi c'était un problème de système ou c'était un problème de casting comme tonton?
Non, c'est difficile de juger. On peut pas juger sur une rencontre totale ou quoi que ce soit, en fait, sachant que tout le monde est quasi passé au travers. Donc c'est concrètement, je vais vous dire, c'est difficile de juger sur un seul match. Maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est une erreur de casting sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vais pas épiloguer. Tonton a dit quand même beaucoup de choses sur ce sujet, et on verra quand on viendra un peu plus dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais c'est erreur de casting sur la journée. à revoir avec les joueurs qui sont en forme et qui sont capables de mettre plus d'intensité qu'on en a vu aujourd'hui.
Tout à fait. Y a NDSG justement qui en parle là, mais on fera un point justement tout à l'heure. Est-ce qu'il fallait tourner ? Est-ce que les choix ont été bons ? Est-ce que les remplacements ont été bons ? On va se poser la question juste après. Mais juste avant, j'ai juste envie de vous demander une question qui va peut-être fâcher. Hein, et ben justement, par rapport à ce que disait Eve, on a notre recrue star cet été en termes de prix qui est Kolo Muani, 90 millions, il faut le rappeler. Est-ce que dans l'axe, c'est encore possible ou est-ce que ça y est, c'est déjà fini ?
Pas titulaire en tout cas dans l'axe. Dans le sens où pour moi, Kolo Muani, dans le casting de Luis Enrique, là je vais plus se reprocher à Luis Enrique parce que c'est lui le coach et c'est lui qui fait choix d'hommes.
On y vient juste après. En parlant de Kolo, on en parlait Kolo dans l'axe.
Ok, donc pour Kolo, pour moi, tu vois, c'est un ailier. Kolo, tu dois le foutre sur l'aile. Tu dois le mettre sur l'aile avec un rôle de buteur, mais pas en neuf. Mais si tu le fais jouer en neuf, tu le fais rentrer en cours de match une fois que Ramos a fait le plus dur du taf en fatiguant la défense de par son physique. Et utiliser Kolo Muani justement sur ses qualités d'ailier, mais en fin de match. C'est-à-dire, dès que la défense est fatiguée, tu fais rentrer Kolo. Là, ça peut le faire en tant que neuf. Mais pour moi, si tu mets Kolo neuf, c'est pas titulaire. Tu mets Ramos neuf titulaire et tu fais rentrer Kolo en cours de match comme neuf, ok. Mais si tu le mets titulaire, pour moi, il est lié. C'est pas vraiment un neuf pour moi, Kolo Muani. Mais ça reste mon avis.
Alors, très rapidement, avant de passer la parole à Kev, Clermont, faut pas les sous-estimer. C'est une équipe qui a été très, très mal payée sur ce championnat. On les a vus. Ils ont des joueurs qui sont très bons avec des très belles passes. On va même pas parler du gardien qui a été formé au PSG, qui sort une masterclass. Leur neuf, Richarlison, ça marche super bien. Il pose énormément de problèmes. Ça va très vite et il bloque très bien derrière. Et c'est une équipe qui est mal payée. Vraiment, elle est sous-estimée. C'est un truc de fou. Kev, je vais te laisser rebondir du coup sur Kolo. Est-ce que Kolo, pour toi, en neuf, c'est encore viable? Comme tonton, c'est en deuxième partie, pas viable? Ou est-ce que pour toi, il faut insister avec Kolo en neuf?
En fait, moi, depuis le début, en fait, je trouve qu'on a deux profils de neuf qui sont totalement différents. Kolo Muani est un attaquant de profondeur, c'est-à-dire que dos au jeu, c'est un attaquant qui sert à rien. Concrètement, malheureusement, enfin, j'exagère quand je dis qu'il sert à rien, mais c'est un attaquant qui n'est pas à l'aise dos au jeu, et c'est un attaquant qui est très très bon quand il a la capacité de prendre la profondeur, d'attaquer les espaces, etc. etc. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, dans ce profil de match, je ne suis pas convaincu que le choix Kolo Muani soit le choix le plus adapté dans une défense qui était relativement basse, qui nous a contre-attaqué. Et on l'a vu, de toute façon, et contre Marseille, et même sur les 30 dernières minutes, dès qu'il a eu la possibilité de prendre un peu plus d'espace, c'était un peu plus intéressant. Donc voilà, maintenant, après, on n'a ni les tenants, ni les aboutissants de ce qui se passe à l'entraînement. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça me gêne maintenant que les entraînements soient vraiment fermés, que nous, amateurs de football, on ne puisse pas avoir accès à tout ce qui se passe à l'entraînement pour voir un petit peu comment se passent les séances de Ramos, de Kolo Muani. Peut-être qu'à l'entraînement, un des deux surperforme plus que l'autre dans certaines situations. Donc, à voir. Maintenant, difficile. Honnêtement, difficile de... Moi, je pense que c'est viable. En Ligue des Champions, ce sera beaucoup plus intéressant, étant donné qu'on ne va pas avoir autant de possession qu'en Ligue 1. Maintenant, je pense que moi, le plus difficile à trouver, en fait, c'est surtout moi, ce que je trouve. Ce que je ne comprends pas, pardon, c'est surtout d'autant réaxer Mbappé. Je trouve que Mbappé est trop axé. Il est le créatif que l'on ne veut pas qu'il soit. Le joueur qui m'énerve quand il joue de cette manière et du coup qui bride beaucoup de joueurs autour de lui parce qu'il demande trop le ballon dans les pieds. Alors que, en fait, aujourd'hui, dans le football moderne, comment tu joues ? Tu joues avec les qualités, tu mets en avant toutes tes qualités. Quelles sont les qualités de Kylian Mbappé ? La profondeur, le 1 contre 1, le 1 contre 2 et la finition. Aujourd'hui, il a été quasi jamais en finition parce qu'il descend bas, il vient toucher les ballons. C'est lui qui est le passeur. Et ça, j'aime pas ça. Donc, en fait, je pense que concrètement, voilà, après, pour répondre aussi à Visu, hein, moi, je trouve que comme tu l'as dit, hein, Clermont est une équipe qui a été très mal payée. Et il faut être honnête, hein, moi, j'ai été très, très agréablement surpris par le football que Clermont a proposé. Hein, on va pas se mentir.
C'est un délice. Justement,
on va très rarement balancer le ballon. Hein.
Je ne sais pas si tu arrives à lire la question qui est affichée, mais en gros, il y a Wizzy Brom qui nous dit « Je respecte Clermont, mais est-ce que Clermont a bien joué ou c'est Paris qui a mal joué ?» Pour toi, c'est
quoi du coup Les deux. Clermont est une très belle équipe de football qui ressort le ballon proprement, qui a ses propres fondamentaux, avec ses qualités et ses défauts. Et Paris, je pense, n'a pas respecté l'adversaire.
Ils ont des transitions, c'est du délice, quoi. Side note, on notera au passage le passage de Nyx qui essaie de défendre sa thèse colo envers et contre tout, même quand ça devient de plus en plus à défendre, je crois que ce sera le dernier à y croire. Et maintenant, messieurs, j'ai envie de vous dire, on va passer à la deuxième question, la question qui fâche un petit peu plus, qui pique un petit peu plus. Est-ce qu'on peut faire tourner? Est-ce qu'on a l'effectif pour faire tourner? Tu as partiellement répondu tout à l'heure, Kev, mais on va revenir dessus plus en détail. Ou est-ce que Lucho a-t-il eu tout faux dans ses choix? Et je parle à la fois des choix pour commencer et ensuite dans ses changements. Tonton, je te laisse commencer.
Non, je pense que tu peux imputer la faute à Lucho ce soir, mais ce n'est pas parce que tu le fais ce soir que ça veut dire que son bilan est mauvais, bien entendu. Non, mais je suis obligé de commencer comme ça parce que je sais qu'après, on va me dire « Ah, tu critiques Lucho avec ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, nana. » Non. Par contre, ce soir, oui, tu peux lui imputer la faute et tu peux lui reprocher certaines choses. Moi, je n'ai pas compris la paire Kolo Muani et Mbappé dans l'axe face à Clermont. Dans un autre style de match, si tu joues une équipe au hasard comme Leipzig qui joue très très haut, ok, tu mets Mbappé et Kolo Muani dans l'axe, ça a du sens. Mais face à un bloc bas, le fait de commencer avec ces deux pointes, je n'ai pas compris. Si tu avais mis Kolo Muani sur l'aile avec Ramos dans l'axe et Mbappé dans ton même système, parce que pour moi Mbappé a besoin d'un vrai neuf à côté de lui, ça aurait pu marcher. Mais le choix des hommes et l'ordre des choix, j'avoue que ça m'a un peu questionné aussi. J'ai pas compris certaines choses, notamment certains changements, mais c'est vrai qu'en discutant un peu avec Kev, il y avait certaines choses qui sont rationalisées. Mais j'avoue que pour moi c'est plus des mauvais choix, et ça arrive, c'est pas grave. Je pense que Luis Enrique, il a pas l'expérience de la Ligue 1. Comme je le disais, avant qu'il arrive au PSG, ça fait 6 ans qu'il n'avait pas coaché en club. Donc oui, je pense que c'est pour Lucho, mais j'espère que ça va lui servir de leçon dans le bon sens du terme pour la suite, tu vois.
Et pour toi, il y a eu un bug que devant. Par exemple, au milieu,
charnière. Non, pas que devant. Non, parce qu'on en a revenu, tu vois. Quand tu m'as dit que Ruiz, c'était la target facile, c'est plus en mode l'utilisation qu'il a eu de Fabian Ruiz. Parce que Fabian Ruiz, si tu le mets en 8 et que tu as un vrai 6 à côté de lui et que tu lui demandes d'avoir le rôle de 8 relayeur un peu créatif, il va être bien utilisé. Mais pour moi, déjà mettre Ruiz en 6, bah, au final tu vois que ça marche pas tant que ça, pas dans ce registre de match, en tout cas contre un bloc bas. Donc même en défense, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi l'utilisation de la défense à 3, bah, si t'avais eu un Lucas Hernandez, ça aurait beaucoup mieux marché parce que t'aurais eu un hybride. Mais voilà, j'ai juste poursuivi sur ce que j'avais pas trop développé jusque là dans le live, tu vois, pour pas trop répéter ce que j'avais dit avant.
D'accord, ok. Bah vas-y, Kev, toi, qu'est-ce que tu as pensé justement des choix de Lucho aujourd'hui et au-delà de ça, est-ce qu'on a la capacité de faire tourner
les deux, en fait, moi, je pense que les choix de Lucho, si tout le monde regarde l'avant-match, tout le monde est plus ou moins rationnel. C'est-à-dire que voilà, faire souffler Ugarte ou Warren qui ont beaucoup enchaîné, qui sont des joueurs importants, ok. Faire souffler Hernandez en sachant la blessure de Nuno Mendes, ok, c'est normal, parce que c'est un joueur qui se blesse souvent. Et malheureusement, en fait, c'est difficile de taper sur le coach aujourd'hui, pour ma part, en sachant que les joueurs qui ont fait souffler ces joueurs-là n'ont pas été au niveau. Parce qu'on oublie aussi Vitinha, qui fait une rencontre catastrophique. Moi, j'ai trouvé très, très moyen. Donc, en fait, au milieu de terrain, on n'a pas été bon. Et ensuite, les 4 de devant, parce que j'insiste, les 4 de devant, même si Barcola a mis beaucoup de choses, etc., c'est pas suffisant aujourd'hui face à une équipe clermontoise. Donc voilà. Et moi, en fait, ce que je remettrai en question, c'est pas les choix de qui a remplacé qui. C'est, je pense que tactiquement, on a mal abordé cette rencontre en faisant rentrer Hakimi intérieur du jeu et Mbappé était trop axé. J'insiste là-dessus. Donc là-dessus, voilà, je pense que Luis Enrique est bien plus compétent que moi. Je pense qu'il l'a vu également. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas utilisé plus de largeur côté droit où nos attaques sont quand même assez importantes de ce côté-là avec Hakimi, qu'à la mi-temps, il ne l'ait pas fait, mais on verra bien. Je pense qu'on a un effectif qui peut faire tourner à partir du moment où tous les joueurs sont disponibles. Aujourd'hui, on a quelques absences qui font qu'on a besoin de faire souffler certains joueurs et malgré qu'on ait beaucoup dégraissé, qu'on ait beaucoup recruté, il y a des secteurs de jeu qui sont défaillants.
Ok, d'accord. Donc du coup, tu t'exonères complètement Lucho sur la compo, mais est-ce que tu as compris ces changements, toi?
Bah, honnêtement, j'aurais été à sa place, j'aurais fait plus ou moins les mêmes changements. Tu essaies d'aller chercher une victoire à l'extérieur, c'est-à-dire tu fais rentrer Ramos pour mettre un peu plus un joueur de surface et tu excentres Kolo Muani. Barcola, c'est sa deuxième titularisation d'affilée. Il faut être honnête, hein, il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait très peu de préparation à l'Olympique Lyonnais parce que voilà, avec son contrat, c'était compliqué. Les matchs qu'il a fait, je crois qu'il a fait que... il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc je trouve que 60 minutes c'était correct. Ensuite, faire rentrer Warren, je trouve ça logique. C'est un jeune joueur qui récupère assez vite. On a eu une semaine de repos, mais pour moi, il ne fait pas une bonne rentrée non plus. Et en fait, j'aurais sûrement moi fait souffler Hakimi pour mettre Mukiele.
Mais Mukiele revient de blessure après.
Et puis tu te retrouves à changer de système surtout.
Non, parce que Mukiele a déjà joué piston à droite.
Alors c'est ça que je veux dire. Mukiele peut avoir ce rôle hybride.
Mais tu changes
de blessure.
Donc, en fait, j'exonère pas pour finir. Parce que j'ai pris beaucoup la parole. J'exonère pas Luis Enrique qui, je pense, a fait quelques choix tactiques qui sont pas bons. Maintenant, en fait, aussi, le problème, c'est que les joueurs qu'il a mis à la place de certains n'ont pas été bons. Et ça, il ne peut pas jouer à leur place.
J'entends. Après, moi, là-dessus, tu vois, bon, pour moi, déjà, le colo dans l'axe, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Sur les appels et tout, quand il a 30 mètres devant, pourquoi pas, mais ça marchait très, très bien, ça, quand il était en Allemagne avec deux disques qui étaient derrière lui. Dans le système dans lequel on joue et surtout vu la manière avec laquelle l'équipe joue en face, pour moi c'est juste quelque chose qu'il faut arrêter. Et il y a un moment où, si tu veux, tu vois, t'as un Ramos, tu peux aussi faire confiance à Ramos, et là-dessus moi je comprends pas son choix. Et la deuxième chose que je vais critiquer, c'est le milieu. Tu peux changer un joueur, pourquoi pas, mais de là en changer deux, bah c'est très discutable. Après, moi, les changements, perso, j'aurais fait les mêmes. J'ai compris pourquoi sortir Barcola, qui a fait pour moi une très, très bonne première mi-temps, défensivement plus qu'offensivement. Il n'a pas fait assez de différence devant, contrairement à ses précédents matchs. Mais on va peut-être faire un petit focus sur Barcola. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la performance de Barcola avant qu'on fasse les individualités? Et puis même, on a un point un petit peu avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de Barcola, justement?
Vas-y, Kev, c'est ton chouchou.
Vas-y, Kev. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup?
Pas suffisamment bon. Honnêtement, j'attends plus de lui, même si concrètement, il y a eu plusieurs fois où on aurait pu le toucher ou le trouver quand il était en 1 contre 1, et on ne l'a pas fait parce qu'on s'est entêté à jouer dans l'axe aussi, vu qu'on n'a pas été très intelligent. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs, notamment ce sauvetage très rapidement dans le match, où tout le monde pensait que c'était Marquinhos, et non, c'était bien le petit Bradley. Non, défensivement, très investi, très intéressant, mais je trouve qu'il a fait moins de diff que contre l'OM. Il était un peu moins relâché, j'ai l'impression. Donc, prestation mitigée, je trouvais. Et en fait, s'il sort aussi en deuxième mi-temps, c'est parce que je l'ai trouvé vraiment... Sa rentrée en seconde mi-temps, elle n'est pas bonne. Il a beaucoup de déchets, il a 2-3 ballons qui grattent avec pas mal de réussite et de chance. Mais j'ai trouvé très, très moyennasse sa deuxième mi-temps. Donc, je trouve ça logique que tu fasses enchaîner certains joueurs qui vont sûrement démarrer contre Newcastle en sachant que ça faisait 0-0. Je pense qu'il aurait joué les 90 minutes si on menait si on menait au score.
Tonton, du coup, ta lecture de Barcola?
Non, bah écoute, il vient à peine d'arriver, il s'intègre petit à petit. Là, c'était sa première titularisation. Je sais, deuxième. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire monter ce commentaire et je t'ai regardé avec le regard
deuxième
de Dark Sidious.
Deuxième titularisation, Tonton.
J'y répondrai après.
Deuxième.
Il a été titulaire contre l'OM.
Ah oui, c'est vrai. Non, fatigue. Excuse-moi. Non. Oui, effectivement. Mais non, Barcola. Ouais, c'est vrai que à l'inverse du match contre l'OM où j'avais trouvé vraiment super du début à la fin, rien à redire. Là, je pense que ouais, comme disait Kevzor, le fait qu'il n'ait pas eu vraiment de vrai prépa avec Lyon parce que c'était pas évident sa situation, le fait qu'il arrive en toute fin du mercato du côté du Paris Saint-Germain, qui du coup n'a pas trop de temps d'adaptation du côté de cette équipe. Bah, quand tu mets toutes ces données, tu vas pas demander à Barcola d'arriver et d'être Mbappé à son arrivée, tu vois. Même s'il lui a pris son numéro en arrivant, tu vois, pour la petite ref, il a pris le même numéro qu'Mbappé en arrivant. Ça remonte quand même sur le mental. Mais en soi, je pense que oui, il a besoin de prendre plus de rythme. Il faut prendre son temps avec lui. Il faut pas trop le presser non plus, trop en attendre tout de suite. Mais je pense que oui, à terme, ça peut devenir un joueur très intéressant, même si son match est moyen, pour être honnête, tu vois. Pas top, mais pas flop.
Moi, je trouve que pour le coup, on a vu aussi que c'était encore un jeune joueur. Il sort d'une titularisation à Marseille où, comme l'a rappelé Kev, il était très cohérent. Et mine de rien, ça, il faut le digérer. Nouveau club, Marseille, etc. Et on a eu un match où, enfin, tu sais, voilà, il n'est pas forcément capable de reproduire avec ce niveau d'intensité et ce niveau de pression. Je sais qu'il reproduisait à Lyon, mais avec Paris, tu montes quand même d'un cran au niveau intensité, au niveau pression. Et peut-être que pour reproduire, il faut aussi lui laisser un petit peu de temps. Et c'était peut-être, moi, au début, je voulais absolument qu'il soit là aujourd'hui parce que j'avais envie de voir parce qu'il m'avait tellement plu à Marseille. Mais à l'arrivée, peut-être que le faire souffler après ce match-là, ça aurait peut-être été judicieux. Mais bon.
Et puis même, est-ce que ses coéquipiers à Barcola ont été du même niveau que contre l'OM aussi, tu vois, c'est une réalité. S'ils avaient...
Ça joue. Mais après, offensivement, il a fait très, très peu de différence. Alors, en deuxième mi-temps, il était vraiment plus bon offensivement. Il a été très, très bon défensivement. En première mi-temps, il en fait quelques-unes, mais il en a fait individuellement beaucoup moins que ce qu'il avait proposé à Marseille, indépendamment de ce qui se passait autour de lui. Il a été quand même moins intéressant individuellement, je trouve. Et inévitablement, je suis obligé de répondre à ça. Ruiz, on a vu tout ce que j'avais vu de bien, en fait, la fois où il était rentré à la place d'Ugarte en fin de match, je ne sais plus sur quel match, où pendant un quart d'heure, il avait permis ce qui manque, mine de rien, quand il y a Ugarte, c'est des capacités de ressortir proprement la balle depuis derrière. Et on l'a vu, ça, pendant un quart d'heure.
Contre Lens, je crois.
Ouais, voilà. Mais on l'a vu pendant un quart d'heure. Mais déjà, même avec ballon, il n'a pas tenu tout le match. Et sans ballon, il s'est fait dévorer. Et puis surtout, le truc, c'est que quand tu passes après Ugarte, qui est une machine de récupération, et que tu te retrouves avec Ruiz, qui en plus n'est pas entouré, ne serait-ce que d'un Warren Zaïre-Emery, qui aurait pu aider un peu à la récupération autour, ou comme le suggérait Tonton, avoir Ruiz qui était plus haut et avoir Ugarte qui était plus bas, c'était les deux possibilités. Peut-être que ça aurait été différent, mais il fait un match où il a fait quelque chose d'intéressant, mais qui n'est absolument pas satisfaisant.
C'est vrai, Adrien. Je vais rebondir sur ce que tu dis, tu vois, c'est là où je pense que je peux tirer sur Luis Enrique. Quand tu joues avec un double pivot, Luis Enrique et Vitinha, tu t'attends à ce qu'en transition défensive, tu sois en difficulté en termes de récupération, Luis Enrique. Fabien Ruiz et Vitinha, concrètement, ne sont pas compatibles pour jouer en double pivot ensemble. Faut être honnête, à un moment donné, on manquait de joueurs qu'avec une grosse VMA capable de récupérer beaucoup de ballons. Et c'est là où, malheureusement, en fait, on n'a pas de profil similaire à Warren et Ugarte. Et donc, en fait, si tu veux les faire souffler les deux en même temps, t'es dans la merde.
Voilà. Ah, complètement. Et je voulais vite fait avant, et justement, je vais vous demander de répondre à cette question, et puis après, on passe à la suite parce qu'on commence à prendre pas mal de temps. C'est réagir vite fait sur ce que tu disais sur Vitinha. Il y en a pas mal qui ont réagi. Je t'ai trouvé un petit peu dur dans le sens où Vitinha a, mine de rien, fait pas mal de différence quand il était devant. C'est juste qu'il était extrêmement esselé et assez difficile à trouver. Et pour le coup, l'argument d'être entouré de manière délicate à peser, parce que sans lui t'as vraiment des difficultés dans la transition. On a un Hakimi qui a beaucoup déçu dans ce rôle-là, alors qu'il était très satisfaisant malgré sa très belle frappe, mais je trouve que Vitinha malgré tout était important. Et très rapidement, en réagissant là-dessus, mais alors pour le coup très rapidement, genre un oui, non, et avec quelques mots derrière, est-ce que pour vous la victoire contre l'OM a été un trompe-l'œil?
Pas forcément, dans le sens où...
C'est cette question.
Non, mais un peu difficile, parce que oui, en soi, bien sûr qu'on ne va pas se mentir, t'affrontes pas l'OM prime, t'affrontes pas l'OM au meilleur moment où tu les affrontes, surtout pour eux. En revanche, c'est pas parce que l'opposition n'a pas forcément été au niveau que le PSG n'a pas fait son match. Le PSG a fait son match contre l'OM, et là, à l'inverse, regarde, est-ce qu'on y arrivait alors qu'on était censé être beaucoup plus fort? Pas forcément. Donc je pense que il y avait, entre guillemets, l'OM, c'est le match qu'il fallait pas rater. Je veux dire, Clermont et Nice... Si tu les rates, on va moins t'embêter. Donc je pense que tu avais un surplus de motivation contre l'OM que tu n'as pas eu aujourd'hui, en tout cas contre Clermont.
Donc à cette question, est-ce que la victoire contre l'OM était un trompe-l'œil pour toi, Kev?
Non, pas du tout. En fait, c'est juste... De toute façon, on a vu que déjà, après cette Ligue des Champions, pour le moment, je n'ai pas l'impression que les attitudes soient bonnes sur le terrain, qu'on prenne le match aussi et autant au sérieux que sur certaines rencontres. Et voilà, faut aussi... Il y a une chose que l'on oublie aussi, c'est que concrètement, on oublie de relever. En fait, moi, je trouve que Clermont a fait un super match. Tactiquement, ils ont été très très bons et ils nous ont mis en difficulté. Parce que tu regardes les deux entre guillemets, quels sont les deux meilleurs entre guillemets de chaque équipe. C'est les deux gardiens. Donc à partir de là, voilà, ils ont eu un très grand gardien. Je trouve qu'ils ont bien défendu et je trouve que dans tout ce qu'ils avaient mis en avant. Cette rencontre, et bien c'était cohérent. Voilà, on a fait un mauvais match, ils ont fait un bon match, et c'est pas un trompe-l'œil, parce que Lens, Lyon, Marseille, ça veut dire quoi, trompe-l'œil? Pour le moment, voilà, on est en rodage, on n'est pas forcément très bon tout le temps, mais on a encore beaucoup de boulot à faire.
Et puis même les matchs sont quand même beaucoup plus enthousiasmants, même un match comme aujourd'hui est plus enthousiasmant que ce qu'on voyait l'année dernière. Faut aussi laisser du temps à Lucho González, Luis Enrique. Luis Enrique de trouver son rythme, etc. Et à l'équipe de se mettre en place. Et ça, c'est très vrai. Hein. Il y a une stat qui est passée à un moment. On était à la 80e. Le premier Parisien en termes de kilomètres parcourus était 5e et était 1 km derrière tous les Clermontois. Et ça en dit long. Et maintenant, messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut être inquiet pour la Ligue 1? Tiens, Kevzor commence. T'as pas commencé souvent.
Non, après, inquiet non, mais il va falloir élever notre niveau de jeu tous les week-ends parce que concrètement, 3 victoires en 7 matchs, c'est pas du tout dans les standings du PSG. Donc voilà, concrètement, inquiet, je suis pas inquiet. Mais je pense qu'il va falloir être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rigoureux, mettre beaucoup plus d'intensité dans nos matchs, respecter un peu plus l'adversaire. Et voilà.
Tonton, pour toi, est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à cette Ligue 1 ou est-ce que ça va?
On est sur un nouveau projet, donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit précédemment. Je ne m'attends pas à ce que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique devienne le Manchester City de Pep Guardiola en 4 mois. Va falloir du temps, va falloir se presser. Est-ce qu'en Ligue 1, tu vois des projets qui te donnent l'impression qu'ils vont te tenir tête toute l'année? Pour l'instant, je n'en vois pas. Lens, qui était notre dauphin la saison dernière, est en train de s'écrouler de par la Ligue des Champions et un calendrier très dur en début de saison. L'OM, c'est pas stable, c'est compliqué. Lyon, je ne vais même pas revenir sur leur projet lyonnais. Moussa Dembélé en a suffisamment dit récemment dans les journaux. Donc quand je vois la concurrence, je me dis juste, en fait, si le PSG arrive à juste faire ce qu'il faut, il va être champion, en fait. Donc c'est juste tranquille. Moi, je suis pas pressé. Je pense que ça va le faire. Il faut juste donner un peu de temps à cette équipe pour qu'elle prenne forme. Mais je ne m'inquiète absolument pas pour le championnat, en tout cas. Moins que l'an dernier avec Galtier.
Et est-ce que du coup, tu accepterais, si jamais il y avait par exemple un Monaco qui tenait un petit peu plus, est-ce que tu accepterais sur cette saison de ne pas forcément finir premier parce que tu as envie de laisser du temps?
Moi, si tu me dis que tu termines deuxième, mais que ce n'est pas forcément ta faute, Monaco fait la saison qu'il faut pour être premier, un peu comme en 2017, et que derrière, tu fais un bon mercato et que ta saison elle a été cohérente du début à la fin, je le digérerai plus facilement que la saison dernière où tu gagnes la Ligue 1 et par contre c'est la dégringolade du début à la fin, quoi, où t'as aucun progrès dans le jeu, t'as de la régression sans cesse, où t'as un coach qui voit des évidences mais décide de faire la politique de l'autruche parce que ça le remettrait directement lui en question. Bah là on le voit moins, donc peut-être que je serais prêt à l'accepter, mais ça dépend sous quel contexte.
Ça marche. Très rapidement, ouais, juste les pouces. Enfin, j'ai pas la vision de combien on en a, mais si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez le contenu. Si quand vous revoyez le truc en replay, quand vous revoyez le débrief en replay, que vous êtes encore là, c'est que vous appréciez le contenu. Le petit pouce, ça nous aide pour le référencement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. On a un petit projet où on essaye de mettre en place un studio pour pouvoir faire ces émissions en live. Si vous pouvez mettre un petit peu la main à la pâte, bah, ça sera super cool et ça nous aidera. Maintenant, messieurs, on va passer aux individualités. Et j'ai envie de vous demander quelles individualités vous avez envie de mettre en avant. Vas-y, tonton.
Tu parles des top et flop?
À peu de choses près. Quelles individualités tu as envie de mettre en avant?
Les joueurs que j'ai bien aimés ce soir. Ouais, j'ai bien aimé Barcola, même s'il peut mieux faire. J'ai bien aimé Ousmane, même si, bah, comme d'habitude, hein, dans la finition, il doit progresser. Genre, je ne sais pas si tu regardes l'émission Ousmane, mais s'il te plaît, fais du spécifique finition. Vraiment, il lui manque que ça. Parce que quand tu vois le nombre de dribbles qu'il provoque sur le côté, les centres intéressants qu'il arrive à mettre dans la surface, j'ai bien aimé son match. Et Donnarumma, parce que Donnarumma, on aime bien dans l'émission, dans le chat, il y a beaucoup de gens dans le chat qui aiment bien dire « Ouais, Donnarumma flop à chaque match ». J'ai adoré sa double parade à la 52 ou 53e, là où il est complètement par terre, où sans lui, on perd peut-être ce match. Donc, ouais, j'ai envie de mettre Donnarumma un peu dans les individualités en avant, sans parler de top et flop.
Ok. Toi, Kev, quelles individualités tu as envie de mettre en avant ce soir?
C'est quoi? Mais j'ai pas compris. Tu veux juste individualité ou top et flop, là?
Si, c'est des top et flop. C'est juste
tu m'as dit un peu de choses près. C'est à ce moment-là, je dis des top et des flops. C'est pas
les
mêmes choses.
Il n'y aura pas les top et flop. Il y aura juste quelles individualités vous avez envie de mettre en avant et quelles individualités vous ont fondamentalement déçu. C'est un peu mieux que top et flop, je trouve. C'est bon.
Ouais, comme tu veux. De toute façon, moi, je sors Donnarumma et Marquinhos. Point. Ouais. Voilà, c'est tout. Je le dis, beaucoup de personnes ont. Tu vois, je suis désolé des termes, mais on chiait sur Marquinhos l'été dernier parce que tout le monde pensait que c'était un tocard, qu'il était devenu. le joueur que nananina. Enfin bon, bref, je vais pas dire certains termes, mais concrètement, faut pas oublier que l'année dernière, en fait, et depuis l'arrivée de Messi, il n'y a aucun joueur qui défend dans ce PSG-là. Donc Marquinhos, concrètement, c'est actuellement notre meilleur joueur. Défensivement, il tient la défense, il change la totalité de nos matchs, il a été encore monstrueux ce soir. Faut être honnête. Et Donnarumma, encore une fois, hein, quand tu es gardien de but, il y a des moments dans un match où tu dois être décisif. Et il l'a été.
Attends, attends, je viens de voir un commentaire affreux. Vas-y, Kevzor, excuse-moi, finis.
Non, non, mais Donnarumma, encore gros top.
Sur Marquinhos, je dirais juste qu'effectivement, l'année dernière, il ressemblait à rien. Hein, peut-être que ça t'énerve, mais c'était le cas.
Oui,
Ce
non,
qu'il dit,
mais non,
c'était
pas l'année
ni à
dernière.
voir. On a
Non, mais
retrouvé
il parle pas forcément à nous,
Marquinhos.
Zadi. Il parle pas forcément par
Ah,
rapport à
pardon.
nous.
Ah,
Tu vois très bien ce qu'il veut
non,
dire.
je parle sur Twitter parce que tout le monde voulait le faire partir en pensant qu'il était devenu un nulard, qui n'était pas capable de retrouver son niveau de jeu. Je dis juste que collectivement et dans beaucoup de choses, en fait, quand tu es défenseur central et que tu te retrouves à défendre tout le temps en infériorité numérique ou à égalité numérique en prenant des vagues à tous les matchs, je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qui auraient été bons dans ce PSG-là depuis 2 ans. Voilà.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et du coup, quelles sont les individualités qui t'ont déçu,
Mbappé,
Kev?
honnêtement, je suis désolé, hein. Mbappé, c'est un joueur que j'adore, mais concrètement, il n'est pas au niveau.
Et
Donc,
t'as... Oui.
concrètement, Mbappé, et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Hakimi n'a pas été bon. Hakimi n'a pas été bon. C'est dommage parce qu'en fait, par rapport à leur niveau de jeu, j'estime qu'ils doivent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Et toi, tonton?
Alors, moi, je vais mettre Mbappé aussi. Je suis d'accord avec Kevzor. À un moment, bah oui, on est dur avec les offensifs. Mais si tu n'as pas d'exigence avec Kylian Mbappé, avec qui tu es exigeant? Il faut être exigeant. Hein, je suis désolé. L'an dernier, je parlais d'exigence avec Neymar et Messi. Ils sont plus là. C'est Mbappé maintenant le mec avec qui il faut être exigeant le plus cette saison. Donc, c'est pas grave. Ça ne remet pas en question toute sa carrière. Mais ce soir, je suis pas satisfait de Kylian. Il y en a un autre que j'ai cité, que notre CM ne citera jamais, en tout cas dans le chat. Vous ne verrez jamais Knicks mettre Randall en flop, malgré la prestation. Même si, ce soir, Randall, le 9, ne s'est pas procuré d'occasion. Que Ousmane Dembélé et Vitinha ont plus frappé au but que lui. Randall, je le préfère sur l'aile. En tant que ailier avec un rôle de ailier buteur, j'aimerais beaucoup le voir dans cette disposition en 4-3-3. Mais Randall en 9 titulaire. Si, c'est vrai, tu n'as même pas mis Randal dans les flops ce soir. Je t'ai vu. Tu as mis tous les joueurs du monde, mais tu n'as pas mis Randal parce que c'est ton pote et on le sait. On t'en veut pas, on t'aime bien quand même. Mais oui, Randal, Mbappé, et en dernier, j'ai envie de mettre Ruiz parce que, mais j'hésitais. J'hésitais entre Ruiz et Luis parce que Ruiz n'a pas fait le match qu'il faut en 6. Mais j'ai voulu mettre Luis Enrique parce que c'est lui qui a fait le choix de mettre Fabian Ruiz en 6. Mais en même temps, a-t-il d'autres solutions? Quelle est l'autre solution que tu peux mettre que Fabian Ruiz en 6 quand Ougarté
Warren.
est absent? Ben finalement, il n'y en a pas. Warren, tu peux le tenter. Oui, tu peux tenter Warren, mais tu le faisais déjà souffler. Donc tu ne peux pas et faire tourner et faire souffler le même joueur en même temps. Donc je pense que il y a quelque chose à revoir peut-être. Je ne te dis pas en mode le mercato est un flop. Mais si cet été, enfin cet été, cet hiver, on peut essayer de dénicher un 6 remplaçant, ce serait pas mal pour commencer.
Ok. Moi
Ah,
j'ai envie de.
j'ai juste oublié de dire
Vas-y.
aussi Danilo, hein, concrètement, depuis le début de la saison, pour moi, il me déçoit
Tu
beaucoup.
peux.
Il me déçoit beaucoup. Je trouve qu'il est très, 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 très lent dans tout ce qu'il fait avec et sans ballon. Même tactiquement, je le vois faire des choses, honnêtement. Là. Quand il fait un sauvetage entrée de surface, là, mais c'est parce que concrètement, je suis désolé, c'est des bases que tu apprends dès que tu arrives sur le grand terrain. Concrètement, tu as ton défenseur central qui va au duel. Eh bien, tu dois couvrir en cas de perte de duel. Et là, ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais à ce niveau-là, ce n'est pas normal. C'est pas normal et ça me fatigue honnêtement de voir des erreurs pareilles.
Alors, très rapidement, moi j'ai envie de défendre Mbappé parce que mine de rien, s'il n'est pas là, on a beaucoup d'occasions en moins. Et pour Colo, je vais apporter ma pierre à l'édifice en neuf, faut juste arrêter. Il est incapable il sert à rien en fait. Oui, d'accord, il court, mais on a déjà des joueurs qui courent. On a déjà des joueurs qui courent. Ça serait bien d'avoir un autre profil tout simplement pour équilibrer et pour t'apporter une variation. Et comme le dit Tonton, à la limite, si c'est fatigué en face, mais on a vu clairement de
Mais
toute façon
même,
qu'il
à
n'était
la
pas
limite, même
fatigué à
tu
la
joues à
fin.
deux. Tu joues à deux. Tu mets Ramos et Colo en même temps. Moi, je prends. Mais
Même
pas Colo tout seul en
pas,
neuf. Si,
même pas.
moi,
Oui.
si.
Ouais, j'entends, mais moi non, parce que je trouve qu'il fait pas les bons appels. C'est un joueur qui n'a pas la science de l'appel. Il est capable de faire un appel tout droit en allant vite, mais attendre qu'il te fasse un appel croisé ou qu'il t'apporte une solution devant qui serait un tout petit peu subtile et un tout qui va un peu plus loin qu'aller tout droit, bah tu l'auras pas avec lui. Et c'est très étrange d'ailleurs, parce que quand il est sur un côté, bah comme on l'a vu, il est capable de temps en temps. Alors il fait pas forcément, il a fait un bien meilleur match sur le côté au précédent match. Mais il est capable tout à coup de faire une passe, de faire un décalage, d'apporter quelque chose. Mais devant, il n'apporte rien. Quand il est le récipient en passe, comme le disait tout à l'heure Kevzor, et qu'il est dos au but, il ne t'apporte strictement rien. Tu as un plot sur le terrain qui sert à rien. Tu joues avec un joueur de moins. Et je suis désolé, vouloir avoir trois mecs qui courent devant, t'as Ousmane Dembélé qui est très très fort dans le jeu de transition, qui est capable d'aller se placer juste à la limite du hors-jeu sur un côté et de se recentrer. Tu as Kylian Mbappé, on a tous vu son sprint, Kylian Mbappé, le jour où Randall sait courir aussi vite, bah peut-être. Mais t'as pas besoin d'avoir ça. T'as pas besoin d'avoir ça. À limite, exploiter quand une équipe est fatiguée, peut-être. Mais sinon, tu le mets sur l'aile et tu vois sur l'aile et tu fais jouer la concurrence. Mais il faut arrêter avec la blague Randal Kolo Muani devant. Arrêter avec ça. Enfin, il sait pas faire. Il a pas cette capacité-là. Jouer dos au but, Randal Kolo Muani, il sait pas faire. Les appels, il sait pas faire. À partir de là, comment tu veux t'attendre qu'il joue un rôle de neuf positionnel? C'est juste pas pour lui et il faut arrêter avec cette vieille blague. Voilà, c'était mon flop. J'en avais qu'un, mais il était utile.
T'en avais qu'un, c'était Randal, mais l'agression.
Ah bah ouais, mais enfin, c'est une vaste blague, ce
Alors,
joueur.
justement, je me permets le running gag. De la même manière que vous ne verrez jamais Nyx mettre Randal en flop, vous ne mettrez jamais Z mettre Ruiz en flop.
Ah
Ça
si,
marche
si, si,
aussi.
si, 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 bien sûr que si, je le mets en flop. Si tu
T'en
veux,
as mis
si tu
qu'un,
veux.
c'est Randal. Tu t'es
Mais
jeté dessus,
non,
tu ne l'as
non,
pas
parce
lâché,
qu'il
tu
y en a
t'es vu à la
un,
fin.
mais c'était par rapport à ce qui a été chauffé. Mais fondamentalement, ce soir, pas passer les deux tops que Kev a nommé parce qu'on a les mêmes, c'est pour ça que j'ai pas rebondi. Tu peux mettre quasiment toute l'équipe en flop. Tu peux mettre quasiment toute l'équipe en flop. Tu as Barcola qui passe à côté de son match. Tu as, enfin, si, Vitinha apporte un petit peu plus. Mais Hakimi passe complètement à côté de son match. Au niveau de la charnière, Skriniar, il y a plein de fois, il est à la bourre. Et tu as l'impression que c'est une compétition de vitesse avec Danilo. Danilo Cavzor a dit tout ce qu'il fallait dire dessus. Je sais pas si j'en ai oublié un, mais j'en ai sans doute oublié un. Mais ce que je veux dire, c'est. C'est très difficile de dire du bien d'un joueur passé Marquinhos et Donnarumma ce soir. Mais Randal Kolo Muani, il y en a encore qui sont en train de défendre Randal Kolo Muani 9. J'ai envie de leur dire, mais arrêtez la blague. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Et t'inquiète pas, Ruiz, il a pas été bon ce soir. Même si Obscur veut absolument que j'en dise du bien, je sais pas pourquoi, il va falloir qu'il mâche avec ça. Non, il a pas été bon. Mais Randal est nul en 9. Faut arrêter avec cette blague. Est-ce que
Bah,
vous
pas
vouliez
grand-chose d'autre.
rajouter un? Est-ce que vous vouliez ajouter un truc, messieurs? Parce que mine de rien, on est en 40 minutes là de live.
Non, moi je vais rien rajouter parce que sinon ça va faire ping-pong sur Randal, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Hein.
Ok.
Mais j'ai pas envie de faire ping-pong. De toute façon, on a chacun donné nos avis. Je pense que concrètement, mis à part Marquinhos et Donnarumma, tout le monde a plus ou moins déçu. Tu vois, même Skriniar n'a pas été bon hein, pour ma part. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir faire une grosse perf mercredi à Newcastle parce que. Voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit. Et je pense qu'on sera attendu là-bas. C'est un stade quand même assez mythique, qui aura beaucoup de supporters. Et j'espère que concrètement, on sera capable de réélever notre niveau de jeu pour permettre. Parce qu'en gagnant à Newcastle, il ne faut pas l'oublier, je pense qu'on fait un très, 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 très gros coup, les gars. Donc, j'espère qu'on fera un gros, gros match mercredi et que le coach va bien bosser avec les joueurs. Voilà.
Et toi, tonton, un mot de la fin?
Mot de la fin, non, je pense qu'elle aura bien tout dit, tu vois. Genre, là, sur ce match, on n'a pas fait tout bien comme il faut, ça arrive, tu vois, c'est pas grave. Mais ouais, j'en attends un peu plus mardi ou mercredi contre Newcastle, en tout cas. Ouais, il fait le tour de l'Europe. En fait, si vous avez pas capté, il se dirige justement au stade des Toons. Il se dirige vers St. James Park, avec un peu de chance, vous le verrez mardi. Non, blague à part. Non, je pense qu'il faudra juste plus de sérieux dans le match contre Newcastle, surtout dans la finition, tu vois, genre. Je pense pas que tu pourras te permettre de faire le même match contre Newcastle et te permettre de t'en tirer de la même manière. Surtout que Newcastle, on sait que c'est une équipe de PL qui va nous mettre énormément d'intensité. Vraiment d'intensité. Donc, qui va mettre beaucoup de coups. Je redoute notamment le milieu avec Tonali et Bruno Guimaraes qui va être particulièrement sympathique contre nous. Mais si on fait les choses comme il faut, j'ai confiance en mon équipe, tu vois, justement. Ouais, prends-moi un loto aussi, Kevzer, s'il te plaît. Mais voilà, sinon. Ouais, voilà, j'attends un peu plus de sérieux et plus de finition devant le but, en tout cas, ce mercredi. En espérant que le petit Bruce va bien, John.
Bon, écoutez. Bon, en tout cas, messieurs, bah, ce fut un plaisir. J'espère que vous avez kiffé ce live, même mon Outburst qui a fait un peu parler. En vrai, n'hésitez pas, surtout si vous êtes encore là, lâchez votre petit pouce. On en a besoin. C'est pour le référencement. C'est un peu fatigant à entendre, mais c'est aussi un peu fatigant à répéter. C'est juste qu'on en a besoin. C'est le YouTube game qui veut ça.
Si et vous en avez marre de voir Kevzor en voiture et que vous voulez le voir sur un vrai plateau, mettez des likes pour développer ce live.
Et au passage, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça nous aide, tout simplement. Merci tout le monde, et ici c'est Paris.